camarade Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Avant tout, je tiens à saluer mon camarade Patrice Villeray, qui vient de prendre la parole, et tous les travailleurs de la fonderie du Poitou, ceux qui sont dans cette salle, et tous ceux qui sont engagés dans ce bras de fer depuis des semaines. Je devais le faire ce matin en me rendant à la fonderie, mais comme le comité d'entreprise extraordinaire devait se tenir à Poitiers, il y a eu une annulation de dernière minute. Alors je connais les fonderies du Poitou depuis pas mal de temps par Patrice, qui m'a parlé des conditions de travail dans la fonderie et de la pénibilité de votre travail. En juillet, quand j'ai appris le projet scandaleux de la direction, je me suis dit que c'était une déclaration de guerre en bonne et due forme. Quel travailleur peut accepter aujourd'hui de perdre 25% de son salaire? Quel travailleur peut accepter de travailler comme vous le faites pour ne même pas gagner sa vie? D'ailleurs, il ne viendrait à l'esprit d'aucun patron de baisser ses profits. Il ne leur viendrait pas à l'esprit de baisser les dividendes de leurs actionnaires de 25%. Non, ça, ils y tiennent, comme à la prunelle de leurs yeux, et ils veulent les garantir. Eh bien, vous leur apprenez avec votre grève que vous aussi, vous tenez à vos salaires, à vos emplois, comme à la prunelle de vos yeux. Depuis que j'ai commencé cette tournée de meeting, eh bien, je parle de cette lutte à chaque fois. D'abord pour exprimer bien sûr ma solidarité et pour dire celle de tous mes camarades de lutte ouvrière. Mais j'en parle aussi pour expliquer que ce qui vous arrive préfigure ce qui peut arriver demain à tous les travailleurs de ce pays. Demain, sous prétexte qu'il faut payer la crise, le patronat et le gouvernement chercheront peut-être à baisser directement nos salaires à nous tous. Et nous espérons que la réaction des travailleurs, la réaction de l'ensemble de la classe ouvrière sera la vôtre. Parce que c'est le seul moyen que nous avons de nous faire respecter. Alors oui, vous pouvez être fiers de votre lutte. Les attaques de la classe capitaliste seront d'autant plus féroces que la crise économique s'aggrave. Depuis 3 ans, nous sommes plongés dans une crise qui a fait exploser le chômage, qui a fait exploser la misère. Et aujourd'hui, l'économie est à nouveau plongée dans une tempête boursière. On parle de faillite des banques, d'une possible faillite de la Grèce, d'une menace sur l'Italie et même d'une possible implosion de l'euro. Et depuis 3 ans, de sommet en sommet, de G20 en G8, les dirigeants du monde capitaliste ont fait la preuve qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Les chefs d'État, comme toutes les grosses têtes au service de la classe privilégiée, des prix Nobel de l'économie aux PDG grassement payés, tous sont désarmés devant les soubresauts des marchés financiers. Les actions en bourse sont en hausse un jour, en chute libre le lendemain. Tout ça au gré de la spéculation et de l'humeur de ce que l'on appelle les marchés financiers. En fait, des grandes banques et des fonds de placement qui jouent le sort de l'économie à la roulette russe. À ceci près que l'arme n'est pas pointée sur eux-mêmes, mais sur les classes populaires et avant tout sur les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Car s'il est manifeste que la classe privilégiée ne contrôle pas sa propre économie, il est plus manifeste encore qu'elle veut en faire payer les dégâts au monde du travail. Sous prétexte que les États sont trop endettés et qu'il faut rembourser cette dette, tous les gouvernements d'Europe et du monde sont en train d'imposer des plans d'austérité drastiques à la majorité exploitée de la population, à celles et ceux qui n'y sont pour rien dans l'aggravation de l'endettement des États, à celles et ceux qui n'ont jamais touché le moindre centime des milliards empruntés par les gouvernements auprès des banques. La bourgeoisie et ses serviteurs au sommet de l'État sont en train de préparer des coups pires encore. Ils sont en train de refaire ce qu'ils ont fait en 2008 pour sauver les banquiers de la crise. Cette fois-ci, le prétexte, c'est de sauver l'euro pour les uns, de sauver la Grèce pour les autres. Ceux qui parlent du sauvetage de la Grèce sont les plus crapuleux. La population grecque subit depuis plus d'un an les licenciements massifs, notamment par l'État, la baisse des salaires, l'amputation des retraites, la ruine des petits commerces, parce que les salariés n'ont plus d'argent pour acheter. Et c'est cela qu'ils appellent un plan de sauvetage. Le plan d'austérité qui est imposé aux classes laborieuses de la Grèce n'est pas fait pour les sauver, mais pour les enfoncer dans la misère. Ceux que les gouvernements européens sont décidés à sauver, une fois de plus, eh bien ce sont les banquiers, les banques françaises et allemandes en premier lieu, qui se sont jetés sur la Grèce comme des vautours pour lui prêter à des taux usuraires. Et maintenant qu'elles sont inquiètes à l'idée que même en pressurant davantage les exploités grecs, le gouvernement ne puisse pas les rembourser, eh bien ils veulent que ce soit les États les plus riches, l'Allemagne et la France, qui les remboursent. Pour soi-disant sauver les banques et l'économie, les États font des ponts d'or aux capitalistes. Mais l'argent qu'ils récupèrent, directement par l'exploitation ou indirectement par les cadeaux de l'État, ils n'en font rien d'utile pour la société. C'est de l'argent qui est englouti par les grandes fortunes. C'est de l'argent qui est dilapidé dans la spéculation et qui nuit à toute l'économie, à toute la société. Et ce serait pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, fermer des bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. Les intérêts de la dette, 50 milliards d'euros par an, sont en passe de devenir le premier poste de dépenses budgétaires de l'État. Cela veut dire que l'on dépense autant, voire plus, pour payer les banquiers que pour les 12 millions d'enfants et de jeunes, pour les éduquer et pour les cultiver. Et attention, que le gouvernement veut réduire, ce n'est pas ce qu'il donne aux banquiers, mais c'est ce que lui coûte l'éducation de la jeunesse. Et tant pis s'il y a des classes surchargées d'un côté, si de l'autre côté il y a des fermetures de classes, tant pis s'il n'y a plus de remplaçants, tant pis si on ne peut plus s'occuper des élèves en difficulté. On parle d'enfants ou de jeunes en échec scolaire, mais il voudrait mieux dire qu'ils sont rejetés par le système scolaire. Alors le gouvernement reportera la faute sur les parents, sur les jeunes eux-mêmes. Mais c'est lui le coupable. C'est lui qui fabrique une jeunesse déboussolée et désocialisée. C'est sa politique qui conduit la société vers la décomposition, vers la violence du chacun pour soi. Alors voilà pourquoi tous les travailleurs doivent rejeter tout appel au sacrifice de ceux qui dirigent cette société et qui la dirigent si mal. Les travailleurs, les exploités, ne doivent pas se laisser impressionner par les problèmes des banques, de la dette, de l'euro ou de la crise, qui seront de toute façon utilisés contre eux comme des moyens de chantage pour qu'ils acceptent de nouveaux sacrifices. Le problème, ce n'est pas de choisir parmi les décisions de la bourgeoisie laquelle évitera la débâcle économique, aucune ne l'évitera. Personne ne pourra mettre fin à la spéculation et empêcher les crises, parce que la spéculation est dans l'ADN du capitalisme. Le système capitaliste, c'est la loi de la jungle, la course individuelle au profit privé, la concurrence, le chacun pour soi. Sauf à supprimer le capitalisme, les travailleurs n'ont aucun moyen d'empêcher les crises. En revanche, ils peuvent empêcher la classe capitaliste de leur faire payer la crise. Ils peuvent arrêter la dégradation de leurs conditions d'existence. Aujourd'hui, 8 200 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 954 euros par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement? Avec les centaines de milliers de travailleurs qui ont été plongés d'abord dans le chômage, puis dans les minima sociaux. Comment pourrait-il en être autrement? Avec les salaires et les retraites qui ne suivent pas le coût de la vie. Quel est le salaire qui a suivi la flambée des prix de l'immobilier, des charges, du gaz, de l'électricité? Quelle est la pension de retraite qui a augmenté au rythme des mutuelles, des assurances? Et même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires. Combien d'entre nous hésitent aujourd'hui avant de changer sa paire de lunettes? Combien d'entre nous hésitent avant d'aller chez le dentiste? Et combien même renoncent à acheter ce qu'on appelle maintenant les médicaments de confort? Et pour les jeunes qui commençaient la vie active, ces années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris diplômés, qui n'ont pas trouvé de travail et qui n'en trouvent toujours pas. Ce n'est pas faute d'envoyer des CV, d'accepter même des stages bidons, des missions en intérim. Sauf pour une petite minorité, la jeunesse travailleuse est obligée de galérer, pendant des années parfois, avant de trouver un vrai emploi. Alors, on peut dire que les classes populaires l'ont payée, cette crise. Et elles continuent de la payer avec ce qu'elles ont de plus cher, avec leur emploi, leur salaire, avec leur retraite. Autant dire que sur la balance des sacrifices, la taxation de 3% des plus riches ne pèse pas lourd. D'ailleurs, elle s'apparente tout juste à une collecte de pièces jaunes auprès des plus riches. Et en plus, elle est temporaire. Quant à ceux qui défendent l'idée de taxer de 0,01% les transactions financières pour mettre à contribution les spéculateurs, ils sont en dessous de tout. En achetant sa baguette de pain, on paye 5,5% de taxes. On paye 2,1% quand on achète le moindre médicament et 19,6% de TVA sur tous nos autres achats. Le gouvernement vient même de décider de surtaxer les sodas. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0,01% sur leurs transactions à eux qui leur apportent des millions et qui en plus nuisent à toute la société. Et ce serait ça le summum du radicalisme? Eh bien, avec de telles propositions, la bourgeoisie peut en être. Alors ce que nous, communistes révolutionnaires, avons à dire aux travailleurs, c'est que ce chantage des ministres concernant la dette ne doit pas nous empêcher de défendre nos emplois, de défendre notre pouvoir d'achat, de défendre notre vie. Confrontés à la crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, ils réduisent la masse salariale, ils licencient. Et tous les grands groupes procèdent de la même façon, même s'ils font de l'argent et même beaucoup d'argent. C'est le cas, par exemple, du groupe Peugeot-Citroën. Il ne lui a pas suffi, l'année dernière, de battre un record de vente et de faire plus d'un milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 2 millions supplémentaires chaque jour. Il lui en faut encore plus. Et aujourd'hui, eh bien, il met des intérimaires à la porte. Et il projette même la fermeture de 3 de ses usines, dont 2 en France, une à Madrid, et il menace ainsi de mettre à la porte plus de 6 000 travailleurs. Et puis, vous êtes bien placés pour le savoir, et on en a déjà beaucoup parlé, certaines entreprises, tout en faisant de l'argent, se permettent tout simplement de baisser les salaires. Alors ce qu'on voit, c'est qu'avec la crise, les capitalistes mènent leur lutte de classe avec une violence redoublée. Eh bien, c'est à nous, travailleurs, de mener aussi la nôtre. Oui, le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. La seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser ce rapport de force, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas de raccourci électoral, car il n'y a pas. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce qu'ils ont arraché, tout ce qu'ils ont obtenu, pardon, ils l'ont arraché au patronat par leur grève, par leur manifestation. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais de perdre aussi son pouvoir sur les entreprises. Les journalistes me posent souvent la question. Mais comment se fait-il que malgré l'aggravation de la crise, vous, les communistes révolutionnaires, vous ne soyez pas plus suivis? Ou alors, pourquoi cette explosion sociale que vous annoncez n'a pas eu lieu? Mais nous, les communistes révolutionnaires, nous n'avons pas de boule de cristal. Nous n'avons pas plus que quiconque le don de prévision. Ce que nous disons, c'est que cette explosion sociale est nécessaire, indispensable, pour arrêter les coups portés aux classes exploitées. Non seulement les travailleurs ont le droit humain, moral, de refuser de payer la crise à la place des profiteurs de cette économie capitaliste, mais leurs intérêts se confondent avec toute la société. La pire chose qui puisse arriver serait qu'il n'y ait pas de réaction à la hauteur des travailleurs. Car alors, tous les privilégiés, préoccupés seulement de leurs profits privés, totalement irresponsables à l'égard de la société, se sentiraient encouragés. Pourquoi s'arrêteraient-ils donc de spéculer si lorsqu'ils gagnent, ils empochent, et lorsqu'ils perdent, l'État leur vient en aide, avec l'argent prélevé sur notre dos? Alors nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs, l'avidité des plus riches, le cynisme de leurs serviteurs politiques finiront par provoquer une explosion sociale. Que les exploités croient ou pas aujourd'hui dans la possibilité de ces luttes n'y change rien, il faudra en passer par là. Quand, où et comment ces luttes se déclareront, nous ne le savons pas et il serait vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien, c'est discuter de nos revendications, c'est fixer des objectifs qui nous unissent tous, par-delà la situation individuelle des uns et des autres, par-delà notre branche professionnelle ou notre catégorie. C'est de discuter des objectifs qui unissent les travailleurs en activité à ceux qui ont été poussés dans le chômage, aux retraités. Le jour où les travailleurs entrent en lutte, il faut qu'ils sachent où ils veulent aller. Parce que la colère ou même la détermination ne suffiront pas. Il faut aussi avoir une claire conscience de nos intérêts de classe pour ne pas laisser des charlatans nous détourner vers des impasses et à plus forte raison vers des voies qui sauvent la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de cette crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer à eux, il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. C'est tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. À entendre les premiers concernés, comme les commentateurs politiques, nous venons de vivre avec les primaires socialistes un événement historique. Après le passage du Sénat à gauche, qui était lui aussi historique. Alors historique pour les sénateurs socialistes qui ont été élus, sans aucun doute. Historique pour les notables du Parti socialiste qui se voient déjà ministres, peut-être. Mais franchement, c'est ramener l'histoire bien bas. Le premier tour des primaires socialistes a en fait donné le résultat attendu. Ce sont les deux principaux porte-parole de la gauche qui s'affichent responsables vis-à-vis du patronat qui sont arrivés en tête. D'un côté, Martine Aubry, l'ancienne ministre du Travail de Jospin, celle qui mit en place l'annualisation du temps de travail, et celle qui ne manque pas une occasion de rappeler qu'elle a été le bras droit du PDG du groupe Péchine. De l'autre côté, François Hollande, qui n'hésite pas à annoncer dès maintenant qu'avec lui, eh bien, ce sera la rigueur. Parisot, elle-même, la patronne du MEDEF, a tenu à souligner que, je la cite, « tous les candidats à la primaire socialiste n'ont cessé de dire pendant cette première phase à quel point ils souhaitaient soutenir, encourager les entreprises. ce qui dans sa bouche signifie clairement aider le grand patronat et aider les banquiers. Au final, quel que soit le vainqueur des primaires, et si il ou elle l'emporte à la présidentielle, les concurrents des primaires se retrouveront ensemble dans un gouvernement qui mènera la guerre aux classes populaires, comme le font les socialistes grecs ou espagnols aujourd'hui. Et le seul changement pour les classes populaires, ce sera que les coups, au lieu de venir de la droite, eh bien, ils viendront de la gauche. Quant au troisième larron, Arnaud Montebourg, qui essaye de se faire une réputation à gauche de la gauche en brandissant la démondialisation, il ne représente pas plus les intérêts des travailleurs. Dire ou faire entendre que la démondialisation est possible et même souhaitable est une stupidité. Tout est mondialisé. Le savoir, les techniques, les capitaux, les idées, la production est mondialisée. Les moyens de communication, les moyens de transport sont plus développés que jamais. La planète est devenue un village. Et c'est heureux parce que nous sommes une seule et même humanité habitant une même planète. Marx l'avait compris en 1840, quand il a écrit le manifeste du Parti communiste, quand la mondialisation n'en était qu'à ses débuts. Il a compris que l'humanité allait être fondue dans un sort commun et que plus aucun problème ne pourrait trouver de solution à une échelle nationale. À sa suite, nous pensons que l'économie débarrassée du capitalisme sera organisée à l'échelle du monde, qu'elle sera même basée sur la mondialisation, c'est-à-dire sur la mise en commun de ce qu'il y a de meilleur à l'échelle de la planète. Et ceux qui, comme Montebourg, brandissent la démondialisation ou le protectionnisme comme des solutions, nous racontent des histoires. Tout ça pour ne pas dire que la crise, c'est la crise du capitalisme. Montebourg s'autoproclame chef de file de la gauche du PS. Mais il n'en est pas moins un de ses notables. Et comme eux, cela lui arracherait la bouche de dénoncer les profits, la rapacité des exploiteurs, leur fortune. Pour lui, comme pour les autres, la propriété capitaliste est sacrée. Les profits sont sacrés. Alors, il n'y a aucune raison de laisser dans cette campagne électorale le monopole de la parole à tous ces dirigeants qui se disent de gauche et qui s'accommodent d'un ordre social aussi injuste et d'une organisation économique aussi stupide. La crise, personne ne peut l'arrêter et toutes leurs tentatives dans ce sens depuis 3 ans le montrent amplement. Alors, nous avons à nous protéger, à protéger nos seuls moyens d'existence, à protéger nos emplois et nos salaires. Et il faut les défendre bec et ongles en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles sans diminution de salaire. Et les exploiteurs ont l'argent pour cela. C'est précisément parce que cet argent est détourné vers des opérations financières que toute la société crève aujourd'hui. Alors cet argent, il serait 1000 fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Nous devons aussi défendre ces salaires et les pensions de retraite des anciens en imposant leur augmentation conséquente pour attraper le pouvoir d'achat perdu. Et pour les préserver, eh bien, il faudra les indexer sur les hausses de prix, de sorte qu'à chaque augmentation, les salaires et les pensions de retraite augmentent automatiquement. Les patrons capitalistes nous diront, ou alors ils feront expliquer cela par leurs serviteurs de la politique et des médias, que ce n'est pas possible parce qu'il y a la concurrence internationale et que cela les ruinerait. Eh bien, qu'ils rendent donc public leurs comptes, pas leurs comptes officiels destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'ils ont de quoi assurer l'emploi de tous les travailleurs sans licenciement et qu'ils ont même de quoi augmenter les salaires de tous. Les capitalistes cachent leur course au profit privé et leur dangerosité pour toute la société derrière le secret des affaires. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans même la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, contraire aux intérêts de la société ou même de l'environnement, eh bien, il a interdiction de le dévoiler. Voilà pourquoi bien des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela et supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires, c'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer cette loi, qui punit actuellement tous ceux qui rendent publics les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires, ne fera pas tout. Cela ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de prendre en main ce contrôle, de se mobiliser, de s'organiser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas, qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Quant aux banques, qui ont une responsabilité écrasante dans la crise que nous subissons aujourd'hui, il faut les empêcher de nuire. De plus en plus d'économistes, y compris de dirigeants politiques, défendent à nouveau l'idée de nationaliser les banques. La nationalisation redevient donc à la mode. Bien sûr, les banquiers sont des irresponsables et on ne peut plus leur laisser les commandes des banques, ils les transforment en salles de casino. Mais les nationalisations qu'on nous propose, c'est encore une façon de sauver les banquiers, de sauver leur fortune, de sauver leur sinécure. Eh bien, nous sommes contre le fait qu'en rachetant leur entreprise au prix fort, la population paye pour que les actionnaires ressortent gagnants avant de l'être une seconde fois quand il y aura la reprivatisation. Nous sommes, nous, pour exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat parce que nous leur devons ça. Je veux rajouter que, pour mémoire, qu'en 2010, ces mêmes banques ont fait des bénéfices extraordinaires. 8 milliards pour la BNP Paribas, 5 milliards pour la Société Générale, 3 milliards pour le Crédit Agricole. Et même s'ils sont aujourd'hui confrontés à la tempête boursière, les bénéfices annoncés pour le premier semestre 2011 sont tout aussi juteux. Alors, pour les empêcher de nuire, il faut les exproprier, sans indemnité ni rachat. Puis il faut fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Je me présente dans cette élection pour défendre cette politique. Ce programme est un programme de lutte pour les travailleurs. Aucun autre candidat ne le met en avant. Même ceux qui se targuent d'être radicaux sont trop respectueux du marché, de la concurrence, de la propriété capitaliste pour le faire. Et leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que des nuances qui ne remettent pas en cause les inégalités, les injustices du système capitaliste et qui ne remettent pas en cause l'exploitation. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous où les crises ne sont pas engendrées par la misère et par la sous-production, mais parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production, parce qu'on produit trop de richesses. C'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. 12 millions de femmes et d'hommes sont affamés aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Mais on produit de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire vite, pour construire bien. Mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Et plus on peut faire circuler les connaissances, le savoir, moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner les maladies graves et même de réussir des prouesses médicales, eh bien moins les gens se soignent. Alors, à tous ceux révoltés par ce gâchis de la société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte, au communisme. Et je voudrais m'adresser spécialement aux jeunes. Pas seulement parce qu'ils sont les principales victimes de la crise, mais parce que c'est de la société future dont je parle, la société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, dans 20 ou dans 30 ans. Les années à venir dépendent de notre capacité à réagir, à nous défendre, à nous battre, à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise équivalente à celle que nous vivons, la crise de 1929, a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière, celle de 1936 en France, en Espagne. Mais ces luttes, eh bien, elles ont été défaites. Et la société capitaliste a montré qu'elle était alors capable de la pire réaction, de la pire barbarie avec la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais de la même façon. Mais voilà où la crise du capitalisme peut nous amener si nous ne sommes pas à la hauteur. Alors, chacun a le choix de ne pas se résigner à vivre dans cette société non seulement injuste, mais aussi irrationnelle, absurde. Chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. La transformation de la société n'est pas l'enjeu de cette élection présidentielle et elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, le programme de lutte que je vous ai exposé ce soir ne pourra pas non plus être imposé par les urnes. Ça, aucun vote ne pourra l'imposer. Mais cette campagne électorale, elle nous donne la possibilité de le faire connaître et de préparer ainsi politiquement les travailleurs pour les luttes indispensables et les luttes à venir. Cette campagne nous donnera un peu plus accès aux médias, mais ce moyen ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique en faveur du point de vue des possédants, et il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses moyens propres pour propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a surtout l'activité des militants, des travailleurs conscients et de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Alors, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans cette campagne électorale. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement nos idées, à les populariser, eh bien, ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes.